RCF.
Vous êtes sur RCF le 18-19 en région. Jean-Pierre Benoît, Alexis Claudretz.
Bonsoir à tous, 18h10, 19h, magazine régional avec RCF Cours de Champagne, RCF Reims-Ardennes. Bonsoir Alexis.
Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à toutes et à tous.
Notre chroniqueur habituel du jeudi, Gérard-Marie-Henri, est avec nous. On va parler économie dans un instant, je vais vous laisser avec lui.
Effectivement, on parlera notamment de l'immigration au Danemark, Gérard-Marie, ce soir.
Oui, une loi d'immigration extrêmement sévère, on va la comparer avec les règles françaises, c'est assez intéressant.
On vous retrouve d'ici quelques secondes pour en parler, Gérard-Marie.
Ensuite, on partira à la découverte de nos campagnes, Rémoise et Ardennaise.
Du côté de Mont-sur-Courville, notamment Jean-Pierre, avec un maire, ou plutôt une maire qui vous parle ce soir.
C'est Jacqueline Lopata, me semble-t-il.
Tout à fait, la maire de Mont-sur-Courville. On présentera la filière technologique dans Parole de Jeunes et on aura le témoignage de Paul qui est lycéen au lycée hôtelier de Bazeille en filière technologique. Donc, la rentrée solennelle de l'Institut catholique de Paris, c'était campus de Reims évidemment, c'était hier soir Jean-Pierre.
C'était hier soir avec Céline Coulangeon qui est doyenne du campus ICP Paris, doyenne de la fac de lettres. Et puis nous avions aussi conférencier qui est venu parler.
Dany Sardon.
Dany Sardon, qui était spécialiste de ces questions du patrimoine et surtout de la cathédrale. Mais vous avez aussi un autre rendez-vous.
Effectivement, avec les projets actuels en santé du côté de l'Agence régionale de santé, c'est Sandrine Segovia-Quenny qui nous en parlera en toute fin d'émission, Jean-Pierre.
Et je crois tout de suite, on retrouve avec vous Gérard-Marie-Henri, Alexis.
Effectivement, Gérard-Marie-Henri pour la question d'économie. Gérard-Marie, bonjour.
Bonjour Alexis, bonjour à tous.
Et parfois, économie et immigration sont liées avec l'exemple du Danemark. L'immigration, c'était un sujet qui préoccupait les Danois il y a quelques années. Et maintenant que le gouvernement, j'allais dire, a résolu le problème, eh bien les Danois vivent à plus ou moins tranquillement.
Ouais, pas vraiment résolu, mais enfin, on va
voir. Ils ont trouvé des pistes.
Ils ont trouvé des pistes qui sont un peu sévères et qui ne peuvent pas être appliquées dans d'autres pays de l'Union européenne. Parce que souvenez-vous, quand on a créé l'Union européenne, les Danois ont d'abord fait un référendum où ils ont voté non. Et puis, pour qu'ils arrivent à voter oui, ben, ils ont obtenu ce qu'on appelle du opt-out, c'est-à-dire la possibilité de faire leurs propres règles dans certains domaines, et en particulier dans le domaine de l'immigration.
Alors, si l'on fait la photographie du Danemark dans ce mois de novembre 2023, Gérard-Marie-Henri, qu'est-ce qu'il faut retenir finalement de ce pays nordique ?
Ben, à peu près 5 millions d'habitants, ce qui est considéré comme le pays le plus compétitif au monde dans le rapport du World Economic Forum de cette année. Donc un pays qui marche très bien, que vous ne connaissez pas beaucoup, mais qui est extraordinairement exportateur, etc. Et puis dans lequel il y a à peu près 15% d'immigrés, et des immigrés que le Danemark aimerait bien intégrer. Et alors, il a fait quelque chose qui est déjà assez critiquable pour certains, c'est qu'il a dit, voilà, il y a deux types d'immigrés. Il y a les immigrés qui viennent des pays occidentaux, immigrés qui viennent de France, qui viennent de Belgique, etc. Puis il y a les immigrés qui viennent de pays non occidentaux, c'est-à-dire, bah, on va dire, en gros, des pays d'Afrique du Nord, des pays du Moyen-Orient. Et on va faire une grosse distinction entre ces deux types d'immigrés, parce que si les immigrés non occidentaux se regroupent dans un quartier, bah, ils vont faire une société parallèle.
Et c'est là qu'il y a eu la création de ghettos.
Voilà, on va dire, on veut éviter les ghettos, on veut qu'en 2030, il n'y ait plus de zones au Danemark dans lesquelles les gens vivent ensemble en dehors de la société générale. Et donc, on va appliquer des règles pour que bah, ces zones, maintenant on a retiré le terme ghetto qui était un petit peu gênant, mais ces zones qu'on appelle des zones résidentielles vulnérables, dans lesquelles il y a beaucoup de gens qui ont des revenus faibles, qui ne travaillent pas, enfin, on a mis un certain nombre de critères en place pour dire voilà ce que c'est qu'une zone résidentielle vulnérable. Dans cette zone, il y a 40% des gens qui sont sans emploi ou qui ne sont pas à l'école. Il y a trois fois plus de condamnations que dans la population générale.
Et juste sur ces listes officielles des zones résidentielles, elles sont mises à jour chaque année.
Chaque année, oui. Et chaque année, le gouvernement danois dit bah, « je suis content parce qu'il y a un peu moins de zones de ce type ». Et alors, quand la zone devient une zone qui reste pendant longtemps dans ce statut, ce qu'on appelle une zone de réaménagement, là, on en arrive à des solutions qui sont encore plus sévères, on va dire. On va dire aux gens bah, « écoutez, vous ne pouvez pas rester là ». On va démolir votre KGB, la tour dans laquelle vous êtes, et puis on va vous reloger ailleurs pour ne pas que vous restiez dans cette zone qui concentre tous les problèmes, évidemment, de criminalité, de drogue, etc.
Et toutes ces pistes de solutions pour éviter les ghettos, c'est le terme de l'article, en tout cas tel qu'il est créé, les Danois ont publié un livre blanc qui s'intitule « Un Danemark sans société parallèle, pas de ghetto en 2030 ».
Voilà,
les mots sont posés.
Oui, oui, c'est ça l'objectif. Et alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que quand cette politique a commencé, elle a été soutenue par des partis de droite. On pourrait dire en France par... enfin, vous voyez ce que je veux dire.
Les Républicains, le Rassemblement National.
Voilà, tout à fait. Et puis, ils se sont fait battre aux élections. C'est les sociaux-démocrates qui ont repris le pouvoir. Et ces sociaux-démocrates, on va dire les socialistes bontins, centre-gauche, ont dit on continue la même politique. Et on continue la même politique. Et ce qui a eu un effet extraordinaire, c'est que ça a fait réduire...
Si on continue le parallèle, je me permets, c'est comme si le gouvernement Macron continuait de soutenir cette politique, que si les partis de gauche, le Parti Socialiste, s'engageaient aussi dans la politique. Voilà, tout le monde s'engage dans cette même politique.
Tout le monde reprend ce qui avait été fait avant, en disant, dans le fond, c'est pas mal, on va retirer le terme ghetto, parce que c'est un peu désobligeant, mais on va continuer à faire dans la même piste. Et alors, ce qui a eu comme conséquence politique, que le parti d'extrême droite, qui avait grimpé de façon extraordinaire depuis les années 90, ne fait plus que 2% aux dernières élections générales, n'a plus que 2% des électeurs derrière lui. Pourquoi? Parce que le gouvernement en place continue à faire une politique qui est une politique assez sévère, avec par exemple l'utilisation du Rwanda. Quand il y a des demandeurs d'asile au Danemark, le Danemark dit « moi je m'en occupe pas », allez voir les autorités rwandaises pour savoir si vous pouvez être récupéré comme demandeur d'asile. Ils ont réduit les possibilités de regroupement familial, enfin un truc assez féroce, mais qui leur est permis, puisque dans l'Union européenne, ils ont obtenu le opt-out qui leur permet de faire des règles dans ce domaine.
Alors finalement maintenant, comment vit-on au Danemark, Gérard-Marie Henry? Comment ça se passe concrètement
très bien,
pour le Danois?
Très bien, très bien. Le Danois normal, le Danois d'origine danoise, vous avez compris que pour être Danois d'origine danoise, il faut avoir des parents danois, que même si vous êtes né au Danemark de parents qui étaient non occidentaux, vous n'êtes pas considéré comme Danois. Les Danois de base, on va dire, les 5 millions sont très contents et vont sans doute, aux prochaines élections générales, revoter pour le parti qui est au pouvoir en ce moment, enfin la coalition qui est au pouvoir, centre-gauche et centre-droit.
Et cette question de l'immigration qui était au cœur des préoccupations des Danois, on l'a dit, elle évolue aussi avec l'évolution des votes et des partis politiques qui sont à la tête du pays, ou en tout cas pour lesquels les Danois ont des intentions de vote. Par exemple, si on regarde en janvier 2020, la question de l'immigration, c'était 13% des Danois qui la plaçaient en tête. C'est le deuxième sujet de préoccupation des Danois.
Tout à fait.
On regarde ce qu'il se passe en 2022, en novembre 2022, il y a un an. Cette même question, elle arrive tout en bas des sondages.
À peine
3% des Danois sont préoccupés par cette question.
Parce que le problème est réglé, parce qu'on évite d'avoir cette concentration de gens qui ont des valeurs différentes des nôtres, il faut bien le reconnaître. Je vous ferai peut-être un jour un exposé sur le World Value Survey, c'est-à-dire quand on demande aux gens qu'est-ce qu'ils ont dans la tête en ce qui concerne l'organisation de la société, etc. On voit qu'il y a une très grosse différence entre les gens qui habitent dans des pays occidentaux puis des gens qui habitent ailleurs. Les Danois ont résolu un petit peu le problème.
On a plus d'informations sur votre blog, gérardmariehenry.com. On a dit qu'il y a ce livre blanc avec l'objectif 2030. Visiblement, ça fonctionne. Quelles peuvent être les pistes à activer davantage pour que cette même politique soit menée, Gérard-Marie Henry, maintenant, sur les 7 années restantes?
Ils vont continuer à faire ce qui est critiqué par certains, bien sûr, des démolitions d'immeubles, des déplacements de personnes qu'on reloge, bien sûr, mais qui ne vont plus être dans cet ensemble qui pose des tas de problèmes. Et puis, on a des obligations, par exemple, que je n'ai pas évoquées jusqu'à présent, mais par exemple, les enfants de ces familles sont obligés, dès l'âge d'un an, d'avoir à peu près 25 heures en école maternelle, d'apprentissage du danois, etc. On punit les parents.
On favorise l'intégration.
Absolument. On punit les parents qui renvoient dans leur pays d'origine les enfants pour qu'ils continuent à avoir les coutumes de ce pays d'origine. On dit, il faudrait mieux qu'ils apprennent les coutumes du Danemark dans lequel vous vivez. Donc, on a un système qui paraît un petit peu sévère, mais qui, pour l'instant, évite que le Danemark ait des problèmes, on va dire, de terrorisme, de criminalité, etc.
Juste d'un mot, Gérard-Marie Henry, le Danemark a tout de même été cadré avec notamment le Conseil des droits de l'homme, notamment des Nations Unies, qui leur a dit attention, n'allez pas trop loin non plus dans vos mesures.
Oui, mais il faut savoir qu'au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, il y a toute une bande de pimpins qui viennent justement de ces pays non occidentaux et qui évidemment critiquent les politiques qui sont menées dans un pays comme le Danemark.
Vous voulez dire, et c'est une page d'humour, Gérard-Marie, prenez-le comme ça, que les Danois doivent rester dans leur niche d'une certaine façon.
Tout à fait, ils ont envie de rester entre eux et puis de ne pas être embêtés par des gens qui viennent un peu les coloniser.
Merci Gérard-Marie Henry de nous avoir éclairé sur l'immigration au Danemark. On vous retrouve la semaine prochaine. le jeudi, toujours dans la question d'économie. À bientôt, Gérard-Marie.
À bientôt.
Le 18-19 sur RCF.
18h20 ce jeudi, Jean-Pierre, vous êtes là, on vient de vous entendre à l'instant. C'est l'heure de retrouver un maire qui nous parle, Jacqueline Lopata, maire de Mont-sur-Courville dans la Marne. Elle échange avec vous.
Madame Jacqueline Lopata, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors c'est l'occasion pour nous de mieux connaître votre commune, de nous la présenter. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter la commune de Mont-sur-Courville ?
Oui, bien sûr. Alors nous sommes une petite commune d'environ 135 habitants. On est situé à la frontière de l'Aisne entre Reims et Soissons et tout près de Fismes, je dirais.
Des habitants qui ont quel profil ? Des personnes plus âgées, des agriculteurs, il y a quelques jeunes, Quelle est la photographie de ces habitants de Mont-sur-Courville aujourd'hui, à peu près, hein ?
Je dirais que la population est plutôt mixte. Donc, je veux dire, actuellement, nous avons trois fermes en activité. Et puis, il y a des gens qui travaillent un peu, des jeunes. Mais bon, la population se stabilise et est un peu mitigée. On a quand même beaucoup d'enfants dans notre commune. À l'heure d'aujourd'hui, on a 26 enfants de moins de 16 ans dans notre commune.
Ah, c'est beaucoup. En proportionnel. Ah oui, on a écouté des maires l'autre jour. Il y avait 8 ou 9 enfants seulement sur des communes de la même habitants, du même nombre d'habitants. Est-ce qu'il y a des jeunes, enfin c'est peut-être difficile, en tout cas des nouveaux arrivants dans votre commune ? On pense parfois avec le Covid, les gens veulent aller un peu à la campagne, mais c'est pas toujours évident. Il faut qu'il y ait des maisons à vendre.
Ben voilà, nous, toutes les maisons qui sont à vendre aujourd'hui ont été pratiquement toutes rachetées. J'en ai presque plus. Et voilà, ça a été racheté par des couples de jeunes qui ont des petits-enfants. Donc nous, c'est bien. On n'est pas une population vieillissante hein, dans notre village.
Alors, c'est vrai, Jacqueline Lopata, que votre commune, bon, elle a son maire, la maire, c'est vous. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à être maire ? Vous étiez déjà peut-être dans le conseil municipal avant ?
Alors, c'est un peu compliqué, pas en fin de compte, je vous dirais, parce que j'étais au conseil municipal en tant que premier adjoint, et après, j'étais licenciée, puisque je travaillais dans les assurances dans une grosse entreprise de Reims. Et ensuite, j'étais obligée de rechercher du travail et j'ai donc trouvé du travail à la mairie de Fismes. Donc, j'ai pris un bain aussi au niveau de tout ce qui se passait dans les collectivités territoriales. J'ai appris beaucoup de choses et c'est cela qui m'a donné l'envie de candidater au poste de maire.
Et c'était quand même un peu dans votre ADN, vous aimez la vie associative, vous aimez le contact aussi avec les habitants, parce que les habitants de Mont-sur-Courville, vous les connaissez tous.
Ah bah oui, on se connaît tous, c'est sûr. Bah oui, moi ça fait plus de 40 ans maintenant que j'habite ici, c'est sûr, on connaît tout le monde.
Et alors, c'est vrai qu'on dit toujours de tous les mandats publics, et tous les élus nous le disent, le poste de maire, c'est celui qui est le mieux, parce qu'il est le plus, on voit ce qu'on fait. Un député, un sénateur, il est un peu parfois sur un nuage. Je ne dis pas qu'il est loin des réalités, mais il ne voit pas concrètement la réalisation de ce qu'il fait. Le maire, si, puis il est interpellé. Vous êtes interpellé de temps en temps, Jacqueline Lopata.
Oui, très, très souvent. Enfin, très souvent. Voilà, le dimanche aussi, ça m'arrive aussi d'être interpellé. Mais pour parfois des urgences, mais pas toujours des urgences, quoi.
C'est-à-dire, on se tourne vers vous parce que vous êtes la seule interlocutrice, au fond, parce que ce soit la préfecture, que ce soit les chefs de canton, on voit personne, vous, on vous voit.
Oui, et puis nous aussi, on a des contacts privilégiés, je dirais, donc s'il y a besoin d'une intervention, nous, on peut intervenir rapidement, et puis les choses se font plus rapidement aussi, parce qu'au bout du fil, on sait que c'est les maires qui appellent.
Alors c'est vrai qu'il y a même des maires qui refusent de reprendre de nouvelles responsabilités parce que souvent ils sont pris sur le plan professionnel et tout. Et là, il y a quand même des gens qui ne veulent plus s'engager parce que c'est une charge, c'est quand même assez lourd finalement.
Oui, tout à fait. On est toujours responsable, on va dire, presque de tout ce qui va arriver dans le village. Donc il faut s'y préparer et puis être réactif le jour où il arrive quelque chose, quoi. On a toujours peur aussi en ce moment avec toutes les catastrophes naturelles qu'on voit.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi un phénomène nouveau. Ce sont les communautés de communes, l'intercommunalité. Ouais. Alors est-ce que malgré tout, les maires disent que oui, et moi je pense que c'est vrai. C'est-à-dire ils ont quand même gardé une responsabilité dans leur commune. On ne leur a pas tout retiré. C'est important le rôle.
Non, non, on nous a pas tout retiré. De toute façon, faut pas dire ça. Il y a des choses, c'est plus de notre compétence, mais on a toujours notre mot à dire. Je veux dire, on fait beaucoup plus de choses aussi, nous, maintenant, au niveau des travaux, depuis qu'on est rattaché à la communauté urbaine du Grand Reims. Je veux dire, nous, des petites communes, il y a des travaux qui ont été faits chez nous. L'assainissement, par exemple, l'enfouissement des réseaux, ça coûte très, très cher. Nous, notre petite commune simple, on n'aurait pas pu faire ça sans être obligé de s'endetter sur les 20 prochaines années. Donc ça a été réalisé dans notre commune, même si ça met du temps pour que les travaux soient réalisés. Mais bon, c'est un gros avantage pour nous, je dirais.
Alors ça, c'est peut-être les projets en cours, les projets à moyen ou à plus long terme. C'est ça qui vous préoccupe, l'assainissement, la voirie, il y a d'autres sujets ou ce sont les sujets prioritaires ?
Ah ben, la voirie, c'est toujours le sujet prioritaire, je pense, pour toutes les communes. C'est très important. Mais bon, après, nous, on a des petites choses aussi à améliorer dans notre village. On a créé un aire de jeu. Donc, on voudrait bien aussi y aménager encore d'autres jeux en plus pour l'année prochaine. Je veux dire, c'est pas des grands projets, nous, à notre niveau maintenant. C'est des petits projets, mais au moins, ça contribue à la vie de tous les jours, à améliorer un peu le quotidien. Et puis, bah voilà, on sait aussi qu'on a fait ça, qu'on a fait un peu quelque chose pour la vie vraiment intérieure du village.
Et puis, il faut dire aujourd'hui qu'il y a sans doute eu une évolution parce que quand autrefois on faisait une route, on mettait du goudron, un enrobé sur les trottoirs, etc. Et puis maintenant, il y a le cadre de vie, c'est-à-dire qu'on fait attention à ce qu'on met et on fait attention aussi à l'environnement. Vous en tenez forcément compte.
Ah oui, on est bien obligé parce qu'il y a beaucoup de lois qui nous y obligent en plus.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous parlez de tempête, quand vous parlez de pluie, il est bien évident que sur un goudron très lisse, ça peut faire des flots d'inondations particuliers.
Oui, tout ça, c'est vu en amont avec tous les techniciens de la voirie. Il y a beaucoup de techniciens aussi qui s'occupent de tout ça. Donc pour nous, c'est rassurant aussi, je veux dire. Le monde aussi qui est là pour
On
nous.
On dit que c'est prenant, Jacqueline Lopata. Il faut conjuguer vie professionnelle, vie familiale. Bon, vous arrivez à vous débrouiller avec tout ça parce que c'est pas évident, hein.
Ah non, c'est pas du tout facile. La vie professionnelle, moi, ça m'a été facilité puisque je travaillais dans une mairie et pendant que j'étais en activité. Donc ça, c'était facile pour moi. On comprenait bien si j'avais besoin de partir, les raisons qui m'y poussaient. La vie familiale, forcément, ça en prend un coup. Je demande toujours à mon mari d'être patient parce que je suis partie le soir en réunion, je reviens tard, et puis il y a beaucoup de réunions. Et je lui demande aussi qu'il me donne un coup de main aussi de temps en temps parce qu'il y a des choses que moi, je ne peux pas réaliser tout seul. Donc il est aussi impliqué d'une manière ou d'une autre, forcément.
Pour terminer, c'est la question traditionnelle qu'on pose cette année à tous nos maires de la région et de l'arrondissement de Reims et du département des Ardennes. Êtes-vous une mère, M-A-I-R-E, heureuse, Jacqueline Lopata ?
Oh je veux dire qu'on n'est pas malheureux, c'est sûr qu'on essaye de donner tout ce qu'on peut, de passer du temps, parce que le temps, il n'est pas compté, mais bon, c'est satisfaisant également.
Et puis c'est ce qui vous passionne, c'est ce qui vous plaît. En tout cas, un grand merci d'avoir accepté de répondre à nos questions puis de nous avoir fait partager votre passion de Mont-sur-Courville.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Eh bien, on aura l'occasion de retrouver un autre maire demain. Je crois que c'est Christophe Blot, qui est le maire de Montigny-sur-Velle, qui devrait être avec nous. Et puis toute la semaine prochaine, bien sûr, nous irons à la rencontre de ces différents maires. Puisqu'il nous reste quelques secondes, on peut rappeler que sur l'antenne de RCF Reims-Ardennes, demain, on retrouvera en direct Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, qui sera avec nous.
Effectivement, on le retrouvera dès demain matin avec vous à 7h. Et dans le magazine régional qui intéresse tous nos auditeurs en région, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, évidemment, on l'entendra aux alentours de 18h40 à peu près.
Absolument, c'est un peu le rythme du vendredi de retrouver l'archevêque de Reims qui reviendra
en alternance avec Monseigneur Étienne Vétheux une fois tous les 15 jours.
Et nous aurons sans doute l'occasion de retrouver très prochainement Monseigneur François Touvet qui reviendra. Et puis Fabrice, vous vouliez ajouter ?
Oui, si je peux me permettre, c'est Philippe Salmon, maire de Cruny, demain.
Ah, vous faites bien de me corriger. Ce sera la semaine prochaine pour Christophe Blot. Philippe Salmon, qu'on connaît bien, qui est le député suppléant de Lormiller et qui est le maire de Cruny. En attendant, il est pratiquement 18h30 et c'est l'heure de retrouver, comme tous les soirs, en direct avec nous, le journal régional présenté par Alexis Claudretz. Bonsoir, rebonsoir Alexis.
Rebonsoir Jean-Pierre, on se voit tellement de fois dans la journée que c'est vrai, on s'y perd. Les titres de ce jeudi 9 novembre 2023, Guillaume Gelé, président de l'université Reims-Champagne-Ardenne, quittera ses fonctions en mars prochain, rencontre avec l'intéressé. L'Institut National de l'Information Géographique et Forestière vient de publier les résultats de l'inventaire forestier national 2023. La mortalité des arbres dans le Grand Est a augmenté de 400% sur la dernière décennie.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Mais l'actualité principale de la journée ce jeudi 9 novembre, c'est la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Vincent Stanek, recteur de l'Académie de Reims, très sensible à cette thématique, a participé à deux séquences. Une première dans l'aube, en matinée, où il a découvert des animations, parmi lesquelles un atelier harcèlement et législation préparé par les élèves et leurs professeurs au collège Jean Moulin de Marigny-le-Châtel. Puis une seconde séquence cet après-midi au collège Louis Pasteur de Suippes dans la Marne. Parmi les temps forts, la plantation d'un arbre symbolisant la lutte contre le harcèlement scolaire, la lecture de textes par les élèves ambassadeurs NAH, non au harcèlement, ou encore la participation de deux classes à la dictée nationale organisée par l'association Les Souffres-Douleurs de l'École. C'est dans ce contexte que tout au long de l'année, de nombreuses institutions se mobilisent. Par exemple, à Reims, le Krebs, la cartonnerie, Jeune Even 51 et nos confrères de Radio Jeune Reims travaillent à la sensibilisation par la musique. C'est ainsi que l'artiste BRLZ a rencontré des jeunes internes du Krebs. Ensemble, ils ont travaillé à une création musicale instrumentale, puis ont réfléchi aux paroles avant d'enregistrer le travail dans les locaux de la cartonnerie. Le titre invoque les enseignants à ne plus reculer face au harcèlement. Alors c'est vrai Jean-Pierre, ce n'est pas forcément dans vos habitudes d'écoute, ni dans les habitudes d'écoute de nos auditeurs sur RCF, mais tout de suite, on vous propose un extrait de Harcèlement, une musique à l'air pop urbaine.
Tout commence avec des rumeurs, puis ça te ronge de l'intérieur. Ça reste en toi comme une tumeur et tu n'as de place que pour les pleurs. Petit à petit t'es plus renfermé, comme si personne t'avait aimé. Personne n'écoute, personne ne comprend, voilà ce que donne le harcèlement.
Je me sens comme une vidéo gazeuse, sous pression et sans goût. Entre humiliation et coup, ma parole devenait silencieuse. Mon quotidien un tabou, quand je repense à toutes ces menaces. Mais plongeant dans l'angoisse, comment y faire face seul.
Je voudrais que ça cesse. Arrêtez que ça saigne, j'attends que ça saigne. J'implore les enseignants, mettre fin au harcèlement.
Je voudrais que ça cesse. Arrêtez que ça saigne, j'attends que ça saigne. J'implore les enseignants, mettre fin au harcèlement.
Au départ, c'est une rumeur, t'as agi comme un chasseur. Tu t'es pris pour un leader, t'as fait que briser mon cœur. Dans une position de soumission, tu m'as mis en dépression. C'était en répétition dans la cour de récréation.
Stupidité des gens me choque, surtout à l'école. C'est chacun pour sa peau, alors pourquoi ça t'étonne? Ils prennent soin de leurs proches, mais pour toi ça change la donne. Okay. Ça s'insulte dans les coms à travers le téléphone.
Différent car tu fais latin, les autres aiment bien te rabaisser. J'aime pas ça, je prends tes patins, souvent humilié, délaissé. T'es dans ton coin parce que t'as pas confiance et que t'as de l'embonpoint. Et je sais la souffrance, des fois c'est pas ce qu'on pense. Discret, renfermé, isolé et grognon. Tour de pisée installe comme des émotions. Ta tristesse se multiplie comme mon pognon. Young élevé en peurin, moi j'ai des notions.
Sincèrement, je suis à bout mentalement, mon corps criblé de bleu. J'espère aller mieux, que mon ciel redevienne bleu. Sur mes joues que des pleurs, dans mes rêves que des peurs. Jugé par leur couleur, sans même regarder au fond du cœur, ça m'écœure. Être seul c'est dramatique, mais c'est mieux que mal accompagné. J'ai pas besoin de vous pour chagner, je vous vois pas Gilbert Montagné. ISSRA, femme accomplie, elle sera. Faire du bif, on essaiera, je peux pas calculer, c'est rare.
Je voudrais que ça cesse, arrêtez que ça saigne, j'attends que ça saigne. J'implore les enseignants de mettre fin au harcèlement.
Je voudrais que ça cesse.
Un titre que vous retrouvez en intégralité sur le YouTube de nos confrères de RGR, le titre Harcèlement. Jean-Pierre, c'est vrai que c'est une cause qui mobilise l'ensemble des enseignants dans l'Académie de Reims. Vous-même qui avez été responsable du Clémy, notamment dans vos fonctions, c'est une thématique que vous avez abordée régulièrement avec les élèves.
Absolument, et il y a quelques années, je me souviens, le prix du harcèlement, c'est-à-dire qu'il y avait des jeunes qui réalisaient des vidéos pour lutter contre le harcèlement. C'est ce que vous avez signalé, le NAH. non au harcèlement. C'était une opération qui était conduite sur le plan académique comme national.
Changement à prévoir à l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Le président Guillaume Gelé, en poste depuis mars 2016, quittera ses fonctions comme le prévoit le cadre universitaire après deux mandats consécutifs. Ça sera en mars 2024, une éluctable logique qui permettra aussi à l'URCA de recevoir un souffle nouveau. C'est le président sortant Guillaume Gelé lui-même qui le signale.
C'est la vie en fait des mandats, puisque les présidents d'université sont élus et ont le droit de faire deux mandats consécutifs. Voilà, moi je suis à la tête de cette université depuis 2016, donc je laisserai ma place à un autre président ou à une présidente en mars 2024. C'est une partie de ma vie d'enseignant-chercheur et de chercheur importante, l'université de Reims, d'abord en début de carrière sur les aspects scientifiques et pédagogiques. Après, parce que j'ai progressivement assumé beaucoup de responsabilités administratives, en terminant par le poste de président, et donc je ferai le bilan de ce que j'ai pu faire au service de cette université. J'espère avoir contribué à la faire grandir, donc à l'avoir inscrite dans un paysage national et international dans lequel notre territoire a un rôle à jouer important. Et puis je serai heureux de laisser aussi la place à d'autres équipes, parce qu'il faut du sang neuf pour amener aussi des nouvelles idées dans les projets de la vie des établissements. Et voilà, ça sera un moment émouvant, mais important aussi pour l'université.
Guillaume Gelé au micro de RCF France-Ardenne. Aussi élu président de France Université depuis décembre 2022, il restera en poste jusqu'en décembre 2024. Patricia Mirallès, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées chargé des anciens combattants et de la mémoire, représentait le président de la République Emmanuel Macron ce jeudi matin aux commémorations annuelles de la mort du général de Gaulle à Colombelles-les-Deux-Églises. Une première gerbe a été déposée devant la tombe du général de Gaulle par Patricia Mirallès avant qu'elle ne préside la cérémonie militaire à la Croix de Lorraine. Autre déplacement officiel, celui de Thomas Cazenave, ministre délégué des Comptes publics, qui s'est rendu à Charleville-Mézières pour inaugurer la cité administrative ainsi que le centre de contact des finances publiques des métropolisés. L'Institut national de l'information géographique et forestière vient de publier les résultats de l'inventaire forestier national 2023. Le Grand Est est une région très boisée, comme nous l'explique Nathalie Derrière, responsable de l'inventaire forestier au sein de cet institut.
Il y a presque 2 millions d'hectares de forêt, il y a beaucoup de feuillus, etc. Il y a énormément de bois également, c'est une forêt qui est vraiment un poumon vert de ce point de vue-là, qui capte du coup aussi du carbone. Le taux de boisement de la région Grand Est est de 34%.
Mais récemment, nos forêts ont connu des problèmes sanitaires.
Des problèmes de mortalité importantes, et c'est la région qui présente le plus d'augmentation de mortalité. En une dizaine d'années, pour la région Grand Est, elle a augmenté de 400%. C'est les sécheresses à répétition depuis 2018 qui ont particulièrement affecté la région. Et puis les arbres, alors certains sont morts très vite, c'est le cas des épicéas. Et puis certains sont en souffrance et ont tenu peut-être la première année, la deuxième année. Mais la succession d'année en année fait que même les feuillus, ils ont également du mal. Et eux également présentent une augmentation de la mortalité.
Pour tenir compte de la biodiversité, les forestiers laissent en place certains arbres morts. Nathalie Derrière.
Qui forment des cavités pour les oiseaux, pour les insectes, etc. Et ils sont en fait riches, même s'ils sont morts. Ils contribuent à la biodiversité des lieux. Mais pour certains arbres qui viennent de mourir et qui ont économiquement une valeur intéressante, ils peuvent aussi faire le choix que ces arbres-là, ils vont les couper et les vendre. Donc en général, le tri se fait un peu selon la valeur économique de l'arbre.
Des propos recueillis par Magali Santulli pour RCF. Nos arbres sont confrontés à toutes sortes de maladies, ce qui a notamment causé beaucoup de coupes rases d'épicéas ces dernières années. Avant de refermer ce journal, place à la météo désormais avec notre stagiaire à la rédaction, Manon Bréval. Bonsoir Manon, quel temps dans le ciel en Champagne-Ardenne pour ce vendredi ?
Bonsoir Alexis, bonsoir à toutes et à tous. Demain, une journée triste en Champagne, des averses et de la pluie éparse en continu. Pour ce vendredi matin humide et froid, les températures pourront descendre à 5 degrés et monter à leur apogée à 10 degrés. Les températures se situeront entre 6 et 8 degrés. Le vent, léger, soufflera tout au long de la journée. Pour l'après-midi, les thermomètres afficheront entre 7 et 11 degrés et pourront monter jusqu'à 12 degrés. Demain, les Léons seront mis à l'honneur, tout comme les averses pour ce jeudi soir. Bonne soirée à tous.
Merci Manon, le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Chalon, Charleville-Mézières.
Et à 18h40, on retrouve Jeanne Boudre et Parole de Jeunes qui s'intéressent ce soir aux filières technologiques.
Bonjour et bienvenue dans Parole de Jeunes. Aujourd'hui, je suis avec Paul pour parler de sa scolarité en filière technologique. Bonjour Paul.
Bonjour.
Pourquoi as-tu choisi d'aller en filière technologique ?
Eh bien, parce que mon conseil d'orientation me l'avait proposé. Il m'a permis de faire un mini stage d'une journée dans le lycée pour pouvoir voir globalement ce que c'était. Et du coup, bah, ça m'a plu. Et j'ai eu envie de m'inscrire dans le lycée et puis faire mes études là-bas.
Dans quel domaine est-ce que ton lycée est spécialisé ?
Il est spécialisé dans la cuisine, le service. Il y avait aussi de la sommellerie, des formations de barista, de l'œnologie, puis de l'hôtellerie, donc bah, la formation pour devenir un maître d'hôte, souvent c'est ça.
En quoi la filière technologique est-elle différente de la filière générale ?
Elle est différente parce que on a des cours plutôt atypiques, comme la cuisine ou le service, et on peut pas choisir nos spécialités, donc on a des matières imposées qu'on ne choisit pas.
Par rapport à ta vie au lycée, tu es interne et tu as un plan d'aide personnalisé. Comment est-ce que ça s'organise dans ton quotidien ?
Le lycée, il m'a aidé à m'organiser pour mes travaux, pour mes devoirs, avec mon plan d'aide personnalisé. Donc j'ai eu le droit à une AESH, donc une aide sociale si on veut, et des simplifications des exercices, réduction des devoirs, aide aux devoirs aussi. Beaucoup. En seconde, on a l'étude obligatoire. Donc une heure d'études obligatoire, où là je peux avoir de l'aide aux devoirs par rapport à mon plan d'aide personnalisé. Puis sinon après, ça s'organise comme tout autre internat.
Quels sont les regrets que tu pourrais avoir de ne pas t'être orienté vers la voie générale ?
Ce que je regrette le plus, c'est de ne pas avoir pu choisir mes spécialités. Et puis aussi d'être contraint, si on veut, à un seul métier et un unique métier. Puis la proximité de la maison, du fait que... Un lycée général, c'est souvent son lycée de secteur, et là, c'est pas mon lycée de secteur, donc c'est loin, et donc je suis contraint d'être en internat.
Merci beaucoup, Paul, pour ta participation. C'est fini pour cette interview, et à bientôt dans Parole de Jeunes.
Et c'est les jeunes aussi qui vont être concernés, les étudiants notamment, dans la chronique suivante avec Jean-Pierre Benoît qui va prendre le relais pour l'interrogatoire même, j'allais dire. Plusieurs invités nous rejoignent en studio pour revenir sur la rentrée solennelle de l'Institut catholique de Paris, campus de Reims, autour de Jean-Pierre Benoît. On retrouve notamment le directeur de l'ICP, campus de Reims, Olivier Cuissard, que vous connaissez bien, mais aussi Cécile Coulangeon, doyenne de la faculté des lettres de l'Institut catholique de Paris, et le professeur Dany Sandron, professeur d'histoire. De l'art du Moyen-Âge, notamment à la Sorbonne.
Olivier Cuissard, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Hier avait lieu la rentrée officielle, oui. À l'ICP Campus de Reims. On dit rentrée
académique.
Académique. Ouais. Comment s'est passée cette rentrée, Olivier
plutôt
Cuissard
très bien. Tout le monde semble satisfait. On a eu de bons intervenants qui vont nous parler sur ces ondes et voilà, de bons retours.
Alors, ces intervenants sont là avec nous, oui. Le docteur Cécile Coulangeon, qui est doyenne de la faculté des lettres à l'ICP Paris. Alors, c'est vrai, Cécile Coulangeon, que vous avez déjà un beau projet pour la rentrée 2024 que vous allez mettre en œuvre.
Oui, effectivement, nous travaillons depuis quelques mois sur un projet de recherche autour de l'abbatiale Saint-Rémy de Reims, un projet autour duquel nous avons réuni plusieurs partenaires scientifiques locaux, notamment des collègues de l'INRAP, des archéologues du Grand Reims. Nous avons le soutien du service archéologique de la DRAC Grand Est et également plusieurs directeurs de musées de Reims. Et au fil de nos premières rencontres, c'est très vite dessiné l'intérêt de pouvoir élargir ce projet de recherche en intégrant tout ce qui était connaissance du patrimoine et de l'histoire de
Est-ce
Reims.
Est-ce que ça veut dire, Cécile Coulangeon, que pour les étudiants de l'ICP Campus de Reims, il va y avoir des nouveautés à la rentrée 2024 ?
Oui, il y aura la possibilité du coup de nous accompagner dans ces projets de recherche et de pouvoir participer en tant que stagiaire à des recherches en archives ou à l'étude du bâti sur des monuments médiévaux.
On peut parler d'une chaire du Moyen-Âge qui serait lancée en septembre 2024 ?
Oui, voilà, c'est le projet que nous aurions, d'élargir et de créer une chaire qui regrouperait plusieurs projets de recherche, non plus seulement sur Saint-Rémy, mais sur Saint-Nicaise, sur Saint-Denis et sur les églises médiévales des régions environnantes de Reims.
C'est vrai qu'il y a une richesse patrimoniale à Reims assez exceptionnelle sur le Moyen-Âge.
Exceptionnelle et puis qui a été encore peu étudiée. La cathédrale a beaucoup dominé les recherches, mais le reste du patrimoine qui a beaucoup souffert pendant la Première Guerre mondiale, du coup, a été moins traité et il y a encore beaucoup de choses à faire.
Professeur Dany Sandron, vous qui êtes professeur d'histoire de l'art du Moyen-Âge à Sorbonne Université, la cathédrale, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, comme vient de le dire Céline Coulangeon, mais tout de même, c'est un sujet majeur d'étude encore pour vous aujourd'hui. Elle est belle, cette cathédrale, Dany Sandron.
Oui, la cathédrale de Reims, c'est un monument éminent. C'est parmi peut-être les 5 ou 6 monuments qu'on pourrait retenir pour l'architecture du XIIIe siècle. À l'époque de sa construction, c'est l'édifice le plus vaste, aussi bien en longueur qu'en hauteur. Je parle de la hauteur sous voûte. Un monument gigantesque qui a été conçu pour impressionner la population locale, mais au-delà, évidemment, avoir un...
Sans entrer dans le détail, professeur, hier, au cours de votre conférence, vous avez mis l'accent sur peut-être 1 ou 2 points importants sur l'histoire de l'art au Moyen-Âge. Est-ce que vous pouvez nous en faire profiter très rapidement avec 2 ou 3 axes qui résumeraient un petit peu la pensée que vous avez développée hier soir ?
Donc la cathédrale de Reims, on la compare souvent à d'autres édifices, comme la cathédrale de Chartres, la cathédrale d'Amiens, etc. Si elle s'en distingue, c'est peut-être qu'il y a une qualité dans le décor monumental qu'on ne retrouve pas aussi généralisée dans d'autres édifices. Je parle non seulement de la sculpture des portails, mais aussi de la sculpture monumentale des parties hautes, du décor des chapiteaux, ou à l'intérieur de l'édifice, tout cela témoigne d'une exigence tout à fait exceptionnelle.
Et ce n'est pas lié, c'est la question bien sûr du néophyte, à l'histoire des sacres. C'est pas parce qu'il y a eu des sacres qu'il y avait, sur le plan de l'art lui-même, un effet ou un effort particulier.
Non, le sacre, ça vient s'ajouter à une volonté de la part du clergé, l'archevêque et le chapitre cathédral de construire un édifice tout à fait exceptionnel. Évidemment, ils vont jouer de cet atout d'être responsable de l'église des sacres pour évidemment augmenter encore le luxe, l'ambition du projet.
Et dans les cours que vous assurez à Sorbonne Université, vous avez des étudiants aujourd'hui qui sont fortement intéressés par l'histoire de l'art.
Oui, heureusement, des étudiants donc après la licence, en master, certains en thèse, qui travaillent sur l'architecture médiévale. Oui.
Et ça peut donner peut-être à celles et ceux qui nous écoutent, aux parents, aux grands-parents, eux qui voyagent aujourd'hui, qui veulent retrouver sans doute aussi des racines, donner des idées lorsqu'on va dans les abbayes à découvrir ce patrimoine. Est-ce qu'il y a une formation particulière pour l'histoire de l'art, pour quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose, d'avoir, j'allais dire, les premières bribes?
La vocation de l'université, c'est de former à différentes disciplines. Et pour ce qui est de l'histoire de l'art, qui n'est que très peu enseignée dans le secondaire, avant le bac, évidemment, c'est d'assurer une formation de base, d'avoir un contexte historique, de maîtriser le vocabulaire d'analyse en histoire de l'art, etc. Mais ça s'acquiert assez rapidement en 2 ou 3 ans, avant de pouvoir pousser des études beaucoup plus complexes.
Céline Coulangeon, en dehors de la chaire médiévale, quel est le rôle d'une doyenne de faculté des lettres à l'ICP Paris ?
Ah, c'est un rôle qui est essentiellement celui de coordonner toute l'activité de la faculté, des enseignants et notamment des personnels administratifs, dans le but de faire en sorte que les études de nos étudiants se passent dans les meilleures conditions possibles.
Il faut dire que Faculté des Lettres, ça regroupe pas mal de disciplines. Il faut quand même en rappeler quelques-unes.
Oui, en fait, on a les lettres, mais on a tout ce qui est histoire de l'art, information, communication. On a des parcours aussi pluridisciplinaires, donc l'histoire est associée à la géographie, aux sciences politiques. L'histoire de l'art est associée à l'histoire et aux langues. Et on a des cursus de langues très classiques, littérature anglaise, espagnole, mais aussi plus contemporain comme approche avec des langues étrangères appliquées, avec une optique de carrière plutôt dans les milieux du commerce.
Au Moyen-Âge, on a le sentiment, sans vouloir revenir au Moyen-Âge, qu'il y avait, d'une certaine façon, pour certaines personnes peut-être, un certain art de vivre, une certaine créativité, une grande ouverture d'esprit. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est une légende ?
Pour revenir au champ des cathédrales, il y a évidemment un fourmillement créatif qui accompagnait justement la construction de ces cathédrales et au-delà après l'achèvement du gros œuvre, l'entretien de ces édifices. Et pour cela, quantité de personnes pouvaient converger et apprendre sur place, hein, ce qui explique le classement par l'UNESCO des savoir-faire liés au chantier de cathédrale il y a 3 ans.
Avec une imagination considérable, et puis aussi des clins d'œil. On le voit parfois dans la statuaire, des gens qui construisaient la cathédrale et qui faisaient des clins d'œil, peut-être pour critiquer les princes ou les rois, ou pour se moquer de tel ou tel. C'est un peu vrai.
Oui, il y a une forme d'humour à côté, évidemment, de l'art sacré. Il y a une ironie qui peut être maniée. Et dans les parties hautes de la cathédrale de Reims, vous avez des masques grimaçants qui sont vraiment des chefs-d'œuvre, hein, de l'expressivité.
Olivier Cuissard, pour terminer, une chaire médiévale l'an prochain, une conférence qui a eu lieu hier avec d'excellente qualité avec le professeur Dany Sandron, vous êtes enchanté, vous êtes un directeur de l'ICP vraiment aux anges là.
Je suis un homme heureux, si
vous
on
êtes,
peut dire ça.
Vous êtes l'ange au sourire.
Comme l'ange au sourire. Mais si je peux me permettre d'ajouter, on a parlé de la cathédrale, on projette de travailler dans la chaire que l'on va ouvrir très prochainement, notamment Henri Deneuve. On projette de travailler sur Henri Deneuve, donc très lié à la cathédrale de Reims, donc qui fera sans doute l'objet d'un colloque ou d'un travail au printemps à venir, printemps 2024.
Merci Olivier Cuissard, merci. Docteur Cécile Coulangeon, doyenne de la faculté des lettres ICP, et du professeur Dany Sandron, nous avoir accompagnés aujourd'hui, et à bientôt sur RCF. Au revoir.
Le 18-19 sur RCF.
Pour les dernières minutes à passer ensemble, opération communication sur les projets de la rentrée pour l'Agence régionale de santé de la Marne. Certains ont été lancés avant l'été, d'autres viennent juste de l'être. Sandrine Segovia-Queny, déléguée territoriale de la Marne à l'Agence régionale de santé du Grand Est, est avec Christopher.
Sandrine Segovia-Queny, bonjour.
Bonjour.
L'ARS, via sa délégation territoriale de la Marne, déploie les politiques de prévention du ministère, notamment par les moyens des contrats locaux de santé. Présentez-nous un petit peu l'intérêt, le but de ces CLS pour abréger.
L'objectif, c'est de lutter contre les inégalités sociales, territoriales et environnementales en santé. C'est vraiment une politique qui est extrêmement importante. Et cette politique ne peut pas exister sans la volonté des élus. Et on a beaucoup de chance dans le territoire de la Marne d'avoir cet investissement des élus, hein, que ce soit le maire de Reims, le maire de Vitry, le maire de Châlons, le maire de Sainte-Menou, la maire d'Épernay qui est sur un autre territoire aussi plus grand. Tous ces acteurs qui sont présents et qui ont envie de travailler sur cet outil qui rassemble aussi, c'est vraiment du collaboratif. Il y a effectivement le conseil départemental, conseil régional, rectorat, la CEPAM, la MSA, l'ensemble des interlocuteurs, des partenaires. C'est vraiment un outil qui aide sur un territoire de pouvoir répondre au mieux à l'ensemble des sujets en valorisant des actions sur l'offre de soins, prévention, promotion de la santé, santé environnementale, parfois même urbanisme en santé. Et c'est quelque chose qui est le fruit d'un travail de diagnostic territorial qui est financé par l'ARS et qui permet aussi de repérer finalement les atouts, les fragilités d'un territoire, qui permet aussi de mettre en évidence et puis aussi de financer ces associations qui font un travail qui sont vraiment indispensables et qui est vraiment essentiel sur le territoire et de permettre, après un travail, d'avoir des priorités. Et ces priorités ont des financements. L'ARS, elle est vraiment auprès des communes, des collectivités, pour les aider à porter ce projet. Donc on cofinance un coordonnateur sur le territoire. On finance les diagnostics territoriaux qui vont aider justement à savoir comment on oriente l'action. On est là aussi pour financer des actions et donc pour accompagner l'ensemble des autres partenaires à un financement. Un contrat local de santé, ça peut être 500 000 euros, ça peut être 600 000 euros, pas seulement de l'ARS, de l'ensemble des acteurs. Et ça permet aussi de donner cette pérennité pendant 5 ans de financement des actions.
Dans la Marne, 5 contrats donc, ont été contractualisés, ce qui représente 61% du territoire. Est-ce qu'on peut citer justement les territoires concernés?
Alors le 5e va être bientôt, puisque c'est la terre d'Épernay, pays d'Épernay, qui sera début 2024. On a Reims, on a l'Argonne champenoise, on a Châlons en Champagne qui sont présents. Donc on a vraiment des territoires qui sont extrêmement importants. On a le Vitria, bien sûr.
est prévu 75% en 2024. Ça concerne Épernay, là, pour début 2024, oui, et puis d'autres contrats par
voilà,
la suite.
Épernay n'est pas encore dans ses moins de 69%. Il va y être en 2024, donc on va atteindre bien plus que 75% au niveau. Mais je crois qu'au-delà de ça, ce qu'il faut se dire, c'est que l'agence est là pour accompagner ce projet. Donc, les diagnostics territoriaux vont être faits également là où il y a la volonté d'avoir des contrats locaux de santé. C'est le cas de SUIP et de la COMCO. C'est le cas aussi, après un échange, aussi au niveau de Cézanne. Donc, on voit que les territoires pour lesquels on n'avait pas encore de diagnostic territorial vont être faits. Et c'est quelque chose qui est important. Car avant d'agir, ce qui est important de savoir l'état des lieux. Et à partir de là, un contrat local de santé, c'est environ 1 an, 18 mois, jusqu'à 2 ans pour sa mise en place, pour que l'ensemble des acteurs soient d'accord et fassent finalement le choix de certaines priorités, que des associations ou des institutions se positionnent pour apporter un service, et ça pendant 5 ans, en sachant qu'il y a une évaluation régulière de l'ensemble des actions.
Sandrine Segovia-Couigny avec nous aujourd'hui sur RCF, déléguée territoriale de la Marne à l'ARS Grand Est, pour nous parler des projets à venir de l'ARS sur le plan marnais, notamment, vous le disiez il y a quelques instants, améliorer l'offre de soins. C'est le cas notamment avec l'ouverture de la maison médicale de garde de Châlons-Champagne depuis septembre 2023, qui est implantée au centre hospitalier de Châlons-Champagne et qui est là pour offrir, soutenir, on va dire, l'offre de soins par rapport aux urgences notamment.
Alors, comme délégué territorial et comme médecin, quand on a besoin finalement d'une prise en charge médicale, en dehors des heures où son cabinet médical ou son médecin généraliste n'est pas présent, on a les urgences pour des choses graves et on a aussi la permanence des soins. Avoir une maison médicale de garde, c'est vraiment un projet des médecins pour apporter finalement, répondre à un besoin de la population sur le territoire. Cette maison médicale de garde, c'est vraiment les médecins qui l'ont créée. Nous, on soutient cette initiative parce que c'est vraiment en faveur de la population de Châlons et son agglomération. Elle est installée au sein des urgences de Châlons et elle permet de recevoir des patients. Alors, les patients qui viennent, pour environ 33 patients par week-end, hein, mais ça vient juste de se mettre en place, ils sont adressés par le centre 15, c'est tout à chacun, vous appelez pour avoir la régulation médicale, libérale. Voilà, il y a un problème de santé qui répond à de la médecine générale. Ils sont envoyés donc en consultation dans ces box et il y a au niveau des urgences, environ un tiers, donc environ 10 personnes par week-end, qui viennent aux urgences, qui ne répondent pas aux critères d'une prise en charge aux urgences hospitalières, mais par contre qui répondent finalement à un besoin en médecine générale. Parce que c'est deux prises en charge complémentaires, mais qui sont finalement des offres différentes. Et donc ça apporte un meilleur service et ça permet aussi de mieux cibler et de mieux répondre aux besoins de la population. Et ça, à la fois à Reims, à la fois à Épernay, à la fois à Châlons, à la fois à Vitry, c'est vraiment quelque chose qui est important. Parce que c'est les médecins qui s'organisent pour offrir ce service. Nous, on est là pour les encourager, on est là aussi pour les aider aussi financièrement, puisqu'il y a toujours des frais quand on crée ce type de structure. Mais c'est vraiment les médecins qui sont volontaires pour la BDSA. Et c'est ça, je dois vraiment souligner l'investissement de mes consoeurs et confrères, comme je dois souligner au fait l'investissement et l'engagement des professionnels de santé de notre territoire, parce qu'ils sont vraiment investis pour faire le maximum pour la population, même si on sait qu'on aurait besoin encore plus de professionnels de santé, encore plus de médecins sur notre territoire. Mais c'est une réalité dans l'ensemble des territoires.
Sandrine Segovia-Couigny, il nous reste très très peu de temps. Est-ce qu'on peut parler brièvement de ce groupement d'entraide mutuelle autisme, un projet qui a lieu partout en France? Il y en a un par département et concernant la Marne, ce groupe a lieu à Reims.
Oui, alors c'est vraiment une initiative du plan pour l'autisme qui avait été de créer ces groupes d'entraide mutuelle autisme et de permettre à des personnes atteintes d'un trouble du spectre de l'autisme d'avoir un lieu où elles puissent finalement avoir un lieu qui soit avec un animateur, se retrouver, avoir de la pair aidance, parce que c'est vraiment ce qu'on dit, on aide celui qui est pareil à soi, et d'avoir un lieu qui soit en milieu ordinaire, c'est-à-dire c'est un appartement, dans une résidence, au rez-de-chaussée, animé, qui permet de les recevoir et finalement de faire une activité. On est sur l'inclusion. C'est le plaisir des personnes qui sont atteintes de ce trouble, du spectre de l'autisme, de se retrouver avec les autres, avec des prises en charge qui correspondent à leurs besoins. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'important dans le dispositif.
Il y aura bien sûr d'autres projets qu'on pourra développer dans les prochains jours sur les ondes de RCF. Merci beaucoup Sandrine Segovia-Cueni d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF. Je rappelle, déléguée territoriale de la Marne à l'Agence régionale de santé Grand Est. À très bientôt.
À très bientôt, merci beaucoup.
Effectivement, merci à vous deux. À noter que dans la Marne, ce groupement d'entraide mutuelle autisme est installé depuis le 1er juillet au rez-de-chaussée d'une rue voisine de l'avenue de l'An. À Reims, l'ARS qui injecte 100 000 euros par an, notamment pour payer une animatrice de l'association Les Papillons Blancs en Champagne, marraine du projet. Très bonne soirée en compagnie de RCF. À demain, 18h10.